Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Affaires ukrainiennes, les premières auditions publiques au Congrès commencent en principe dans une heure ce mercredi à Washington dans le cadre de l'enquête ouverte par l'opposition démocrate pour une éventuelle procédure de destitution contre le président républicain Donald Trump. Deux diplomates américains ayant fait part de leur inquiétude sur la position adoptée par le président Trump dans ses échanges avec l'Ukraine vont être entendus aujourd'hui même à la Chambre des représentants. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Ukraine, William Taylor, doit de nouveau témoigner aujourd'hui, cette fois lors d'une audition télévisée devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, l'une des trois commissions menant l'enquête. Un autre diplomate ayant travaillé en Ukraine, George Kent, doit lui aussi être entendu. Les auditions publiques se poursuivront en fin de semaine et la semaine prochaine, on fait savoir les parlementaires. Marie Yovanovitch, qui a été subitement limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, doit, elle, être entendue vendredi. Elle a déjà été interrogée à huis clos par les parlementaires dans le cadre de la procédure. William Taylor a déclaré le mois dernier devant les parlementaires que Donald Trump a conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur la compagnie énergétique ukrainienne Burisma dans le but de nuire à Joe Biden, un possible rival démocrate à la présidentielle de novembre 2020. Cette compagnie avait recruté Hunter Biden, le fils de l'ancien vice-président américain. Ce témoignage alimente la thèse des démocrates selon laquelle Donald Trump avait demandé une contrepartie à Kiev pour les 391 millions de dollars d'aide destinée à faire face aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Une aide provisoirement suspendue par le président républicain après qu'elle a été approuvée par le Congrès.
La lutte contre la corruption en Afrique maintenant, les États-Unis continueront d'utiliser l'arme des sanctions contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré mardi Peter Pham, l'émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est une nouvelle marque de soutien, du soutien de Washington au président congolais Félix Tshisekedi, souligne-t-on. Le point avec Eddie Isango.
Après une visite à Kinshasa, Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis, a écrit hier dans un communiqué « Nous continuerons à utiliser tous les instruments, y compris les sanctions, pour assurer que ceux qui sont corrompus, ceux qui violent les droits humains, ceux qui mettent en danger la paix et la sécurité dans la région ou ceux qui menacent les processus démocratiques soient tenus pour responsables de leurs actes. » Il encourage le président Félix Tshisekedi à redoubler d'efforts pour réformer et renforcer les institutions démocratiques et pour lutter contre la corruption. En septembre, M. Tshisekedi avait affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption sans faire des chasses aux sorcières. Le président congolais a été reçu le 4 avril par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Washington est aussi le premier contributeur financier à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué depuis août 2018 plus de 2000 personnes dans l'est de la RDC.
Le deuxième forum de Paris sur la paix réunit depuis mardi pour deux jours une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine de leaders africains. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis que l'Afrique en général et son pays en particulier seraient au rendez-vous des grands enjeux internationaux. On l'écoute.
Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secouée par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée à travers la CEDEAO d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Shebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo peut être considérée comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, Mais en plus de cela, il faut répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde.
C'était le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au Forum de Paris sur la paix, en cours depuis mardi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Pour faire face aux défis sécuritaires dans le Sahel, l'Afrique a besoin de davantage d'aide de la part de la communauté internationale. C'est ce qu'ont déclaré le président du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, hier au Forum de Paris sur la paix. Les deux leaders ont déploré ce qu'ils ont appelé le manque de solidarité de la communauté internationale. On a demandé 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, a souligné le président Déby. Et sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Et sur les 12 milliards, rien non plus, a précisé le chef de l'État tchadien en évoquant notamment l'Union européenne et les promesses d'aide pour la force conjointe du G5 Sahel qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Pour sa part, le président nigérien Mahamadou Issoufou estime que la communauté internationale n'en fait pas suffisamment pour marquer sa solidarité avec les pays du Sahel et avec les pays du bassin du lac Tchad. Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le parti d'obédience islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives du 6 octobre, doit former un gouvernement d'ici 2 mois. Mais il n'a que 3 jours seulement pour faire un choix. Prendre la tête de l'exécutif ou la laisser à une personnalité indépendante. Le point avec Idriss Fall.
Un chef du gouvernement doit être chargé d'ici vendredi de constituer une équipe dans un délai 1 mois renouvelable une seule fois. Après un week-end de discussion, Ennahda n'a avancé aucun nom. Le parti s'est contenté de proposer son chef historique, Rached Ghannouchi, comme futur président du Parlement s'il est élu ce mercredi. Le parti arrivé en seconde position aux législatives Kalb Tounes a appelé hier à mettre un indépendant à la tête du gouvernement. Le Parlement est morcelé entre des dizaines de formations dont nombre ont exclu de travailler les unes avec les autres. Certains partis sont à l'affût, espérant qu'un échec d'Ennahda va laisser au président Kais Saied le soin de désigner un premier ministre. Ce dernier aurait à nouveau 2 mois pour former une équipe soutenu par la majorité des députés.
En Algérie voisine, la rue ne lâche pas. Quelques milliers d'étudiants ont défilé mardi à Alger pour la 38e semaine consécutive contre le pouvoir, réclamant notamment une justice indépendante et la libération des personnes arrêtées dans le cadre du mouvement de contestation. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Les étudiants, accompagnés de citoyens, ont défilé sous la pluie et sans incident jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement traditionnel du Hirak, le mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis le 22 février. La police était fortement déployée à Alger. Passant dans le centre d'Alger, près du tribunal de Sidi Mohamed, qui a condamné 28 manifestants à 6 mois de prison ferme, les étudiants ont réclamé une justice indépendante et fustigé une justice du téléphone, accusant les juges de prononcer des peines sur instruction téléphonique du pouvoir. Ces 28 personnes ont été condamnées pour atteinte à l'intégrité du territoire national pour avoir porté des drapeaux berbères. En juin, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, avait interdit tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations.
À noter à ce propos qu'un tribunal d'Alger vient d'acquitter ce mercredi 5 manifestants qui étaient accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté le drapeau berbère. Et cela au lendemain, bien sûr, de la condamnation d'une trentaine d'autres à de la prison ferme pour le même délit par un autre tribunal de la capitale algérienne. Et pour terminer, au Soudan, les autorités ont émis mardi un nouveau mandat d'arrestation à l'encontre d'Omar al-Béchir, l'ex-président déjà en prison. L'ancien chef de l'État est maintenant ciblé pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a amené au pouvoir, ont indiqué des sources politiques et judiciaires. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.org. www.voaf.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.